14h avec les demoiselles.
Salut!
Cet automne, Boulevard te tient informé toute la semaine. Marceau le matin, 6h. Le Pit Stop avec Gravel, 7h45. Le Point de Max, 10h. On en jase le midi. Gravel dans le retour, 14h.
Juste Gravel dans le retour qui peut faire ça.
Marceau le soir, 8h. Boulevard 102.1. Maintenant, 100% parler en semaine. 100% talk. Boulevard 102.1.
Salut, bonsoir Québec. Bienvenue sur les zones de Boulevard 102.1. Mon nom, c'est Yann Marceau. Je t'accompagne pour les 60 prochaines minutes. En espérant que passé une belle journée. On a commencé la journée ensemble ce matin sur les zones de boulevard et on va certainement terminer la soirée ensemble sur les zones de boulevard, du moins pour les 60 prochaines minutes. Juste avant de vous présenter mon invité de ce soir, on va regarder ce qui se passe côté météo. C'est un ciel dégagé pour ce soir avec un minimum de 8. Demain, mercredi, une belle journée ensoleillée avec un maximum de 23. Jeudi, ensoleillé, maximum de 20. Et vendredi, ce sera ensoleillé avec un maximum de 20. Donc, du beau temps jusqu'à vendredi. Puis, si je vais plus loin, samedi, ça a bien du sens jusqu'à maintenant pour la journée de samedi. En soirée, on nous parle peut-être de probabilité d'averse à 60% minimum de 12 degrés. Mon invité de ce soir, c'est le prof Duclos, professeur Sylvain Duclos, que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux. Un gars hyper intéressant qui est très, très, très apprécié des jeunes sur les réseaux sociaux. Donc, je vous invite à l'ajouter et je vous le présente si vous ne le connaissez pas dans les prochaines secondes.
Marceau le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau le soir. Le soir. Le soir.
Quel plaisir de lui jaser ce soir. C'est Sylvain Duclos, très actif sur YouTube, un podcasteur, un vulgarisateur, un professeur. On peut le voir partout, même sur TikTok. Salut Sylvain.
Salut Yannick.
T'es rendu l'idole d'un peuple. Mes enfants m'ont parlé de toi.
Ben, j'ai rejoint beaucoup de jeunes, particulièrement les dernières années, avec des vidéos de maths. Effectivement, ouais. Je commence à rejoindre plusieurs publics, là, les ados, les jeunes, puis aussi les parents. Là.
Est-ce que tu pensais un jour faire une carrière aussi sur les réseaux sociaux? Parce que tu es enseignant de formation, j'imagine que ça faisait partie de tes passions si tu t'es ramassé en éducation. Je pense que l'éducation, c'est une vocation, là, donc ça prend vraiment des gens qui aiment ce métier-là pour faire ça. Mais est-ce que tu pensais un jour développer tout ça puis te ramasser sur les réseaux sociaux?
Mais tellement pas, là.
Non?
Si je remonte, même au début de ma carrière, moi, j'étais vraiment un gars hyper gêné, là. Fait que même au début, quand j'ai commencé à enseigner, à être devant une classe, pour moi, c'était hyper difficile.
Ah ouais?
Oui. Fait que les premières années, là, le temps de me faire une carapace, puis je te dirais que c'est peut-être comme ça un peu en radio, le temps de se créer une espèce de personnage de scène, où est-ce qu'il était comme plus une version améliorée de toi-même, avec peut-être plus de confiance, ça a été les premières années en enseignement qui ont été difficiles, puis je me suis ramassé par un concours de circonstances sur les réseaux pendant la pandémie, puis ça a continué par la suite.
OK. Pendant la pandémie, tu l'as trouvé dur, j'imagine, comme tous les autres enseignants et enseignantes qui ont dû s'adapter. Moi, le respect que j'ai eu pour vous à ce moment-là, de voir mes petits bonhommes qui étaient assis tout seuls devant leur écran pour assister à leur cours et la professeure ou le professeur qui discutait avec ses élèves à l'écran, faire de la discipline au travers de l'écran, vous avez été exceptionnel. Puis je pense que vous êtes allé en chercher plusieurs. Là, Vous êtes allé chercher la sympathie des gens pas mal à ce moment-là.
Oui, je pense que les parents se sont rendus compte à quel point c'était pas nécessairement facile de gérer une classe. C'est sûr que particulièrement au travers d'un ordinateur, hein, puis aussi de faire comprendre là, les parents qui ont été pris pour expliquer à leurs jeunes comment faire des multiplications quand ça fait 25 ans que tu n'en as pas fait. Là, ouais. C'est pas évident, là, effectivement.
Qu'est-ce qui t'a amené en enseignement, Sylvain?
Écoute, moi, je pense que ce qui m'a amené en enseignement puis qui amène beaucoup de profs en enseignement, c'est le fait qu'on est bien dans le domaine scolaire. Ce qui fait un clash un peu, c'est-à-dire que moi, à l'école, j'ai toujours été bien, j'étais performant à l'école. Fait que moi, quand je me suis choisi une carrière, je me suis dit, je sais pas trop ce que je veux faire dans la vie. Fait que l'enseignement, ça semble être un bon choix. C'était comme un choix par dépit. Ça explique peut-être qu'on en perd beaucoup parce qu'au final, quand tu prends ça par « Ah, je ne sais pas trop ce que je vais faire l'enseignement. » Puis tu rentres dans une classe la première fois,
ouais.
tu gères une classe, il y en a une couple qui font un saut puis qui revirent de bord. Là. Fait que moi, c'était vraiment un plan D, même, je dirais, parce que j'aurais aimé ça faire médecine, pharmacie ou optométrie, mais je suis daltonien. Fait que toutes ces professions-là, c'était très difficile de les faire parce que je ne vois pas toutes les nuances de rouge, de rose, etc. Là. Fait que moi, ma blonde me demande si elle a une rougeur. J'ai dit non, t'en as pas de rougeur, mais moi, je vois rien. Fait que je suis allé en enseignement, mais finalement, j'adore vraiment ça. Ça a vraiment bien tombé.
T'enseignes les mathématiques?
Exactement, les mathématiques. Puis depuis quelques années, la robotique. On s'est parti à un programme maison à mon école. Donc, prof de maths. Puis j'enseigne plusieurs niveaux parce que j'aime pas ça me répéter dans la vie. Fait que j'enseigne des maths de secondaire 2, des maths de secondaire 4, puis la robotique.
Comment est le moral de nos enseignants et nos enseignantes au Québec?
Bien, je pense que ça dépend vraiment des enseignants. Il y en a pour qui ça va plutôt bien, puis il y en a pour qui c'est vraiment plus difficile. Ça dépend des milieux. Ça dépend aussi notre tâche, notre équipe de travail qui nous entoure, l'appui de la direction, l'appui des parents. Il y a vraiment beaucoup de facteurs. Moi, quand je suis dans ma classe, j'ai vraiment beaucoup de plaisir avec les élèves, malgré les embûches, malgré les défis qu'on a à surmonter.
Ouais.
Cependant, je ne pourrais pas dire que c'est la même chose là pour les enseignants.
Du jour 1 où tu as enseigné versus aujourd'hui, est-ce que les classes sont différentes année après année? Est-ce que la clientèle est difficile année après année? Puis quand je parle de clientèle difficile, là, je ne parle pas d'enfants nécessairement méchants et tout ça, mais des enfants peut-être avec des difficultés qui ne sont pas toutes les mêmes difficultés dans une classe. Est-ce qu'année après année, tu as une augmentation de ça?
Pas prêt à dire que les élèves sont plus difficiles, qui ont plus de difficultés. J'ai l'impression qu'on reconnaît plus les difficultés que quand j'ai commencé à enseigner.
Intéressant, oui.
Quand j'ai commencé à enseigner, les premières années, c'était comme le début de la fameuse réforme. On enseignait, on avait des élèves en difficulté, tu passais pas, tu redoublais, puis on avait très peu de soutien aux élèves. Mais aujourd'hui, on a l'obligation d'apporter un soutien à nos élèves en difficulté. Nos élèves ont de plus en plus de diagnostics. On est rendu à 30-35% de jeunes qui sont en difficulté d'apprentissage et d'adaptation dans les écoles. Mais tous ces jeunes-là ont des plans d'intervention avec des mesures spécifiques, des adaptations, ce qui fait que dans une classe régulière, puis moi, c'est ce que j'ai choisi d'enseigner à la classe régulière à l'école publique,
ouais.
Ben c'est pas 30%, des fois, c'est 50% d'élèves en difficulté d'apprentissage qui ont toutes leurs spécificités. Fait que ça change la dynamique incroyablement. Tu as des jeunes qui sont en modification, qui ne suivent pas le même parcours que les autres, qui ne font pas les mêmes évaluations. Tu as des jeunes qui ont le droit à des ordinateurs. Tu as des jeunes à qui faut que tu livres des questions à voix haute. Il y en a qui faut que ce soit dans leur bulle. Tu as des jeunes intégrés dans la classe qui sont, par exemple, sur le trouble du spectre de l'autisme, qui est reconnu. T'sais, moi, à mon époque, c'était des geeks. Mais aujourd'hui, on sait qu'il faut leur parler d'une façon particulière, utiliser des pictogrammes. Fait que ça devient d'une complexité vraiment plus grande pour les enseignants et le personnel scolaire aux alentours.
Okay. Les jeunes qui sont sur le trouble du spectre de l'autisme, c'est vraiment des Asperger?
Les jeunes Asperger, je pense qu'on ne peut plus utiliser le terme Asperger, là, on en a plusieurs là, sur le trouble du spectre de l'autisme. Puis on parle du spectre, on a des jeunes autistiques qui sont vraiment plus intenses. Il y en a qui sont très légers. C'est pour ça que c'est un continuum, mais c'est des jeunes avec qui j'ai une certaine affinité, j'aime beaucoup travailler avec eux autres, mais ça demeure que parfois, il faut prendre plus de temps, il faut expliquer, il faut éviter les doubles sens, il faut s'assurer d'avoir une référence visuelle, il ne faut pas trop les brusquer parce qu'il ne faut pas changer leur routine. Fait que des fois, ça peut devenir plus complexe dans un groupe à 28-32. C'est pas la même chose que dans un groupe d'adaptation scolaire à 12, 15, 18.
Okay. Mais le fait d'avoir, 20 élèves ou 10 élèves avec des programmes où vous devez vous attribuer ce programme-là, la façon dont vous devez leur enseigner et tout ça, est-ce que ça complexifie encore plus la tâche? Est-ce que les enfants réussissent mieux grâce au fait qu'on les a diagnostiqués? Parce que ça doit être assez complexe pour vous autres des fois. Là. Puis toi, t'as vu neiger, là, tu sais comment ça se passe. Est-ce que ça s'est amélioré en sachant quelle était leur réalité puis comment on devait agir avec eux?
J'ai l'impression qu'on en garde plus.
Ouais.
Puis les études, ce qu'on nous dit, c'est que les études démontrent que ces jeunes-là en difficulté, ils progressent mieux dans la classe régulière avec du soutien que dans une classe d'adaptation scolaire. Ou est-ce qu'il pourrait être plus limité? Le problème, c'est le soutien. Puis le soutien, bien souvent, on ne l'a pas parce qu'on manque de personnel, parce qu'on n'a pas l'argent pour, parce que ça ne fit pas dans les horaires. Fait que c'est là que c'est difficile. Je ne serais pas prêt à dire ces jeunes-là progressent nécessairement tous mieux. Je pense qu'il y a des jeunes pour qui c'est bénéfique. Il y a des jeunes pour qui ça ne l'est pas. Puis ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on a une concentration de jeunes qui sont tous dans les mêmes classes parce qu'on s'est aussi créé avec les années un système, on dit le système à trois vitesses, mais tu sais, on a l'école privée, on a beaucoup de programmes publics sélectifs qui font que nos jeunes en difficulté sont bien souvent tous dans les mêmes classes. Fait que c'est pas le fait d'en avoir 3, 4, 5 dans une classe qui est problématique, c'est le fait d'en avoir 15 puis 20. Fait que c'est là que les enseignants souvent sont débordés puis que malheureusement, ben, ils décrochent parce que j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à atteindre un niveau de qualité d'enseignement qu'ils voudraient.
Ah, c'est intéressant. Puis est-ce que les jeunes qui ont un parcours qui est correct, là, qui n'ont pas de problématiques, ils n'ont pas de programmes spéciaux pour leur année, est-ce que ces gens-là sont ralentis un peu par le parcours des autres? Parce que là, on est au public, là, puis on va peut-être parler du privé. Ces gens-là, dans le privé, ils ont la chance de choisir les élèves, ce qui fait en sorte que tu as moins de chances de te ramasser avec une classe où il y a la moitié des gens qui sont TDAH. Ça doit être plus facile pour ces enseignants-là. Mais dans ton cas à toi, les jeunes élèves, qui eux autres ont un parcours régulier, qui apprennent bien, qui semblent bien aller, est-ce qu'ils sont ralentis un peu par tous ces diagnostics-là dans la classe?
Je te dirais que c'est une question de c'est toujours un coup de dé. Il y a des classes où ça se passe plutôt bien, mais on ne sait pas ça va être quoi la dynamique qui va se créer avec nos jeunes, mais je pense qu'à un moment donné, il y a un seuil critique où si on dépasse ça, puis je ne suis pas capable de le quantifier, où est-ce que oui, ça ralentit la classe, puis oui, les jeunes... on va dire réguliers, qui n'ont pas de difficultés particulières, se voient ralentis. Puis on a moins de temps aussi pour nos jeunes les plus doués pour aller les pousser, pour aller à leur plein potentiel, parce qu'on est toujours en train d'éteindre des feux puis de donner de l'attention à nos jeunes qui ont le plus de difficultés. Si on avait un ratio qui était plus raisonnable, je te dirais, on serait capable de mieux y arriver. Puis tu sais, il y a des choses qui ne mentent pas. Il y a beaucoup, beaucoup d'enseignants de la classe publique qui envoient leurs jeunes dans des concentrations ou dans les écoles privées. Là. Mm-hmm. C'est très connu. Donc, ça nous dit, ben, je connais le système et je fais ce choix-là pour mon enfant. Ça ment pas.
C'est triste parce que c'est un désaveu pour le système dans lequel ces enseignants-là évoluent. Puis merci de le faire, soit dit en passant, évoluer au public. Moi, j'ai été au public toute ma vie. Puis mes enfants sont au public. Puis j'ai eu la chance, moi, d'avoir de bons modèles masculins et féminins qui m'enseignaient année après année. Je suis jamais tombé sur des pommes pourrites. Je suis jamais tombé non plus dans des classes qui étaient extrêmement problématiques. Mais je vais te poser une question avec le meilleur français que je puisse avoir ce soir. Là. Pourquoi tu sacques pas ton au privé, ça serait tellement plus facile pour toi?
Sincèrement, j'adore enseigner à des jeunes qui ont des difficultés d'apprentissage puis pour qui je fais la différence.
Ouais.
Moi, je suis un vieux prof. Là. Moi, dans mon école, j'aurais la possibilité de choisir des groupes enrichis, des groupes de concentration. Je pourrais le faire. Puis je le fais pas. Parce que, en fait, je l'ai déjà fait puis j'ai dit, hey, je laisse ça aux autres. Parce que j'aime ça, sentir que je fais la différence pour mes élèves. Que ça va peut-être prendre 3 puis 4 façons différentes de leur expliquer la même chose pour que finalement je la voie et l'étincelle dans leurs yeux puis qu'ils fassent là, j'ai compris. Puis qu'ils viennent me voir l'année d'après ou 2 ans plus tard pour dire hey, Sylvain, tu as vraiment fait une différence. Ça, pour moi, c'est je sais dire ça, c'est une partie de ma paye. Pour de vrai, c'est ce sentiment-là d'avoir un accomplissement. Fait que j'y crois vraiment à l'école publique. Puis c'est pour ça que, d'une certaine façon, je me bats sur les réseaux, puis que je publie, puis que je partage, puis que je dénonce, parce que je pense qu'on est capable de faire mieux avec des petits ajustements. Puis ça prend de la volonté, ça prend de l'écoute. Mais oui, ça prend un petit peu d'argent, mais ça prend aussi surtout de dépenser de façon plus intelligente. Puis j'ai l'impression qu'on n'écoute jamais les gens sur le terrain, qu'on pourrait faire mieux.
Ben, c'est tout à ton honneur de rester au public. Puis moi, ce que j'entends, c'est un gars qui a une vocation, c'est pas un gars qui a une job. Puis il est très heureux d'aider les jeunes qui peuvent avoir des problématiques, puis les autres jeunes qui sont dans le parcours du public. Est-ce que ça t'a créé des problèmes d'être sur les réseaux sociaux puis parler un peu du système d'éducation? Est-ce que ça a changé un peu la perception de tes élèves, de tes propres élèves, de tes collègues? Je sais pas, moi, les hautes directions ont-tu dit, ben Sylvain, ça ferait bien que tu restes dans ta classe plutôt que sortir ces réseaux sociaux?
Ben, oui et non. Bon, pour les élèves, ça ne change pas grand-chose. Pour de vrai, moi, pour mes élèves, en fait, ils ont l'interdiction de me parler de tout ce que je fais sur les réseaux. je veux pas qu'ils arrivent dans ma classe et qu'ils me disent « Hey, Sylvain, je t'ai vu live sur TikTok hier soir. Ouais. » C'est interdit de m'en parler. je leur donne 5 minutes en début d'année. On règle la discussion, puis il ne m'en parle plus, puis il respecte ça. Quand je vais aider des collègues dans d'autres classes, là, des fois, je vais faire une suppléance de dernière minute, là, les élèves réagissent un peu, ils ont envie de poser deux, trois questions, on ferme ça rapidement, puis ils comprennent qu'il y a une séparation. Au niveau de l'implication plus citoyenne politique, c'est certain qu'on a un devoir de réserve, puis je le respecte pas tant, je pense. Mais en même temps, mon employeur, que je considère être mon école puis mon centre de service scolaire, ben je fais attention à eux autres. Je les nomme pas. Je parle jamais non plus de ce qui se passe dans mon école ou dans mon centre de service scolaire. S'il se passe quelque chose dans mon centre de service et juste dans mon centre de service scolaire, je vais laisser ça à d'autres. Il y a d'autres profs qui vont en parler. C'est pas ma job. Je ne vais pas me mettre en porte-à-faux avec mon employeur. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, on m'a dit, Sylvain, fais attention. Sylvain, tes vidéos, quand tu écorches un peu le ministre, fais-les pas dans ta classe. Puis, tu sais, parce que, tu sais, puis je comprends très bien ça. Ce qui explique d'ailleurs que souvent, je suis en colère dans mon char. Parce que c'est ça.
OK, ben je comprends un peu la dynamique. Donc, quand tu parles de sujets, tu parles de sujets plus généraux. C'est ce que je comprends. Pour la rentrée scolaire, l'année passée, c'était à peu près la même affaire. Là, on parlait qu'il manquait énormément de professeurs. Puis là, ben, la bonne nouvelle pour le ministre Drainville, c'est que c'était un peu mieux cette année que l'an passé. Donc, ça s'est amélioré. Puis ça vaut la peine de le mentionner quand ça s'améliore aussi, comme ça vaut la peine de le mentionner quand ça se désagrège. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'année après année, il y a toujours un manque à gagner de professeurs ou de professionnels dans nos classes. Pourquoi on attend toujours à la dernière minute pour dire « Oh, là, c'est la panique, là. Il manque 20 personnes à Québec, 40 personnes à Lévis, 300 à Montréal, 18 à Trois-Rivières, 28 à Drummondville. » Pourquoi dans les derniers jours avant de rentrer, on se réveille? Y a-t-il une convention collective qui fait en sorte qu'une fois qu'il faut placer les professeurs, puis après ça, on se ramasse avec les personnes qui sont absentes?
En fait, oui puis non. C'est-à-dire qu'il y a une question d'organisation scolaire qui fait qu'il y a des questions de redoublement, de cours d'été, etc., qui font que pour finaliser les groupes, finaliser les tâches des enseignants, bien, on arrive tard pour pouvoir finaliser tout ça. Mais on est capable d'en faire une grande majorité à l'avance. Mais il y en a un petit peu qui se fait à la dernière minute, puis ça, je pense que c'est compréhensible. Puis là, avec la dernière convention, le ministre voulait que ça se fasse plus tôt, donc pas plus tard que le 8 août, je pense. Ça laisse quand même une marge de manœuvre. Le problème, c'est qu'on n'en a pas de nom. Puis tu ne veux pas engager quelqu'un de non qualifié avant de te donner la chance d'engager quelqu'un de qualifié. Puis des gens qualifiés, on en a de moins en moins. On est au-dessus de 10 % de personnel non légalement qualifié dans les écoles. Je parle juste pour les enseignants. Tout ce qui est personnel de soutien, professionnel, etc., ça, je ne comprends pas. Parce qu'ils peuvent tous les engager d'avance. Ça ne change pas tant que ça. Fait que ça, il a dû attendre à la dernière minute puis d'attendre les budgets, savoir s'il nous reste assez d'argent pour ouvrir les postes. Fait qu'il y a du dernière minute qui se fait là-dedans, mais je ne connais pas la poutine interne. Tu disais tantôt, ça s'est amélioré un petit peu cette année. C'est vrai que dans les chiffres, ça s'est amélioré. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'avec les coupures qui ont été annoncées en juin dernier, bien, il y a des classes qui ont fermé. On a pacté des groupes avec plus d'élèves par groupe. Fait qu'on a fermé des postes. Puis on a fermé des postes, par exemple, d'orthopédagogues. Les orthopédagogues qui n'avaient plus de job comme orthopédagogues sont venus enseigner. Fait que, tu sais, il y a comme eu des vases communicants qui ont fait que cette année, ça a l'air mieux. Ça reste que le gouvernement ne fera pas de miracle. On a une démographie qui fait qu'il y a de plus en plus d'enseignants qui partent à la retraite. Puis des jeunes qui sortent de l'université, il n'y en a pratiquement plus, là. Moi, quand je suis sorti de l'université, on est rentré une cohorte, je pense, de 200. Puis on est sorti, moi, j'enseigne en maths et français. Juste ma cohorte de maths français, on est sorti 20. On a gradué 20 qui enseignaient les maths et le français. Cette année ou l'année passée à l'Université Laval, de mémoire, il y a 9 personnes qui ont gradué pour enseigner les maths au secondaire. 9 pour toute l'Université Laval. Les chiffres, ça ne marche plus. Là, parce qu'on en perd la moitié pendant leur parcours en étudiant pour devenir enseignant. Puis on va en perdre probablement 40 à 50 dans les 5 premières années. Fait que c'est pour ça que ça ne balance plus. Les gens essaient la profession, ils ne l'aiment pas, puis ils s'en vont.
Mais quoi faire pour ramener l'attrait, justement, de cette profession-là? Parce que c'est un métier qui était extrêmement respecté. En fait, aujourd'hui, je pense que tout le monde respecte les professeurs. Quiconque a déjà passé plus de 20 minutes dans une classe vous donnerait la béatification, la canonisation. Je peux vous le dire, j'ai enseigné, moi, pendant quelques jours à l'école primaire pour faire un petit cours pour la radio puis la télévision. Puis je me suis assez rendu compte que ça prend énormément de patience. J'ai eu la chance d'être enseignant pendant quelques années au collège radio-télévision aussi, où là, j'étais avec des adultes et c'était beaucoup plus facile. Mais c'est tough en sacrifice être enseignant. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que ça intéresse plus tant de monde que ça de devenir enseignant? C'est quand même des bons salaires. Après plusieurs années, bon, on est capable d'aller se chercher un salaire dans les 6 chiffres, puis il y a une bonne échelle, on va se le dire, là, année après année, tu essaies de grimper. Là, ils ont augmenté le seuil là, des salaires, ils l'ont augmenté un peu, mais c'est pas normal qu'un enseignant qui débute avec une tâche soit obligé d'avoir une deuxième job ou même une troisième job pour arriver. Ça, c'est un non-sens pour moi. Y a-t-il des choses qui peuvent améliorer justement pour ramener des gens à l'enseignement?
Je suis content que tu dises qu'il y a quand même des bonnes conditions. Parce que je pense pas qu'on déchire notre chemise sur le salaire. T'sais, oui, le salaire, c'est important, puis il n'y a personne qui veut perdre de pouvoir d'achat.
Mais le salaire d'entrée, tu habites à Montréal, tu habites à Québec, le salaire d'entrée, tu n'es même pas capable d'avoir un 2,5. Tu es enseignant, ça n'a pas de bon sens. Là.
C'est ça. C'est sûr que ça n'a pas de bon sens rendu là. Mais je pense que la chose principale, si j'avais à te le résumer à une phrase, c'est que enseigner, ce n'est plus enseigner. Ta job principale quand tu es enseignant, c'est pratiquement plus d'enseigner. C'est de gérer des comportements, c'est d'être pseudo-psychologue, pseudo-travailleur social. Tu gères tout ce qui est à côté. Puis finalement, la job d'enseigner, c'est quasiment un sideline dans certains groupes. Donc, c'est sûr que ça devient complexe parce que quelqu'un qui s'en va en enseignement veut enseigner. Il veut passer de la matière, il veut transmettre des connaissances. Mais au final, ça devient peut-être 30-35 % de ta job, puis tout le reste à côté prend beaucoup, beaucoup de place. Fait que c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup d'enseignants qui quittent. Puis quand je dis qu'ils quittent, ils quittent après un an à l'université, ou bien ils entendent parler que c'est difficile dans les classes, puis finalement, ils ne s'inscrivent jamais. Puis tu sais, des enseignants qualifiés au Québec, on n'en manque pas. Il y en a plein. Ils ne veulent juste plus enseigner. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je pense qu'il faut ramener, au-delà des salaires, au-delà de toutes ces autres choses-là, il faut ramener le goût de vouloir enseigner, puis dire, hey, venez, là, vous allez être capable de faire ce bout-là dans vos classes, d'enseigner.
Est-ce que la relation avec les parents a changé au fil du temps? Ça fait déjà quelques années que tu es enseignant, là. Puis encore l'année passée, on avait une rencontre avec l'enseignante de mon plus jeune, puis elle me demandait si on avait des choses à dire à la fin de la rencontre. Je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup dans ma vraie vie. À la radio, ben, j'ai pas le choix, il faut que je fasse ma grande gueule. Mais j'écoutais l'enseignante, puis tu sais, sans nécessairement lui dire, je la trouvais formidable d'être aussi incroyable avec mon enfant. Puis, à un moment donné, elle est arrivée à une résolution de conflit avec mon enfant. Puis, je dis, savez-vous quoi? Moi, ce qui se passe dans votre classe, c'est vous qui décidez de la discipline puis des choses que mon enfant aura à faire. Exemple, un travail compensatoire. Puis, j'ai vu dans ses yeux, comme, hé, c'est rare qu'on se fait dire ça. T'sais, moi, si vous me dites quelque chose qui s'est passé dans votre classe puis vous mettez, un travail compensatoire, bien, sachez que ça va se rendre chez nous puis il va devoir le faire, ce travail compensatoire-là. Quand ça se passe chez vous, vous avez le droit de donner de la discipline à mon enfant, puis je vais vous aider là-dedans. Mais visiblement, ce n'était pas quelque chose qu'elle se faisait dire souvent. Là. Moi, j'ai entièrement confiance aux enseignants puis aux enseignantes. Puis c'est pas vrai que mon enfant, il va être roi et maître à l'école.
Les parents, je vais faire attention à ce que je vais dire. Okay. La majorité des parents...
J'essayais d'aller te chercher, là. Donne-moi un peu d'émotion.
Je n'irai pas là. La majorité des parents, ça va bien.
Ouais.
En ce sens qu'on a peut-être un quart des parents qui sont vraiment de notre côté, qui viennent appuyer nos interventions. Un quart. Qui sont vraiment là investis et appuient les interventions de l'école. Ils répondent tout de suite à nos courriels. Je vais lui en parler. On va faire un suivi à la maison. À peu près un quart. On a peut-être la moitié des parents, je te dirais malheureusement, fantômes. Ils ne vont pas contre ce qui se fait. Puis là, je suis au secondaire, je ne suis pas au primaire, on s'entend. Au secondaire, on n'en entend pas parler. On leur écrit, ils ne répondent pas. Ils ne se présentent pas en rencontre de parents. Mais on a des parents aussi d'élèves que ça va bien et qui ont. Il laisse aller la barque, mais ce qui se passe à l'école, se passe à l'école, puis ce qui se passe à la maison, se passe à la maison, mais il n'y a pas beaucoup d'interaction entre les deux. Puis on a peut-être un corps de parents que ça peut être plus difficile, qui sont plus à prendre avec des pincettes, qui vont jouer aux hélicoptères, qui veulent tout faire pour leur enfant, ou bien qui montent aux barricades, parce que c'est pas leur... Là, je fais des approximations, là. Mais des parents très problématiques, très peu. C'est des parents là, qui vont faire des plaintes pour un tout puis pour un rien, là, puis que ceux qui gueulent puis qui font des posts Facebook, là, ça, il n'y en a pas beaucoup, là, c'est 1%, mais c'est sûr qu'on voit le plus. Mais tu sais, ce petit pourcentage-là fait que bien souvent, tu es craintif quand tu commences à enseigner avant de faire l'appel aux parents, avant d'envoyer un courriel, parce que tu ne sais pas comment tu vas te faire avoir. Alors que si on remonte dans le temps, là, et moi, dans mon temps, si l'enseignant appelait à la maison, écoute, j'avais une punition à l'école, puis mes parents m'en rajoutaient 3 par-dessus. Là, on n'est plus là. T'sais. Déjà, quand les parents sont de notre côté et disent hey, vas-y, c'est correct, tu peux gérer, on est vraiment content.
Ouais, les choses ont tellement changé. Hein? Les enseignants appelaient à l'école, à la maison, puis là, ben, ma mère disait ben, pour les prochains jours, tu ne sors pas dehors, mon grand. Là, maintenant, c'est le contraire. Quand l'enseignant m'appelle ou quand elle m'écrit, ben, je dis à mes gars ben, vous allez aller dehors aujourd'hui. Vous n'allez pas être en dedans. Mais oui, c'est important la collaboration enseignants et parents parce que ben, c'est triste à dire, là, mais dans la saison où les enfants doivent aller à l'école, ils sont plus souvent avec vous autres qu'avec nous autres. Puis trop souvent, il y a des parents qui oublient leur job de parent puis qui s'attendent que le prof fasse l'éducation de leurs enfants. Mais c'est pas ça. C'est une job conjointe. T'sais. Puis tu vas toujours avoir la dernière des décisions pour tes enfants, que tu sois papa ou maman. Mais en bout de ligne, il faut que tu aies confiance en l'enseignant, en son bon jugement. Encore plus quand c'est des enseignants qui sont de carrière puis qui ont 5, 10, 15, 20 ans d'expérience. C'est important de les écouter, là.
Je pense que peu importe l'expérience de l'enseignant, c'est important de faire confiance, particulièrement aux jeunes enseignants, de faire des commentaires qui sont constructifs, mais c'est ceux qui ont le plus de besoin d'avoir le soutien. Quand tu te rends compte que ton jeune a un jeune enseignant, une jeune enseignante, ben, tu sais, c'est important même de répondre positivement, de dire hey, merci, belle activité, parce que c'est là qu'ils se forgent, justement, puis qu'ils vont donner du plus puis de l'extra sauce, là. Mais tu sais, c'est vraiment une minorité de parents qui montent aux barricades. Mais je comprends aussi que la vie a changé. Là. Moi aussi, là, je le vois avec ma conjointe, on court, puis le soir, on travaille tous les deux. Il n'y en a pas un qui reste à la maison. Fait que c'est sûr que le rythme de vie, la société a changé. Fait que déjà, quand on a des parents de notre bord, on est bien content.
Oui, puis tu sais, des enfants, c'est notre seule richesse. Hein. Moi, mes gars, j'essaie d'être le meilleur père possible, mais ils me rendent fier. Puis comme ils me rendent fier, faut que je leur rende bien aussi. Puis je veux former de bons êtres humains. Puis ça commence par une collaboration avec l'école. Puis quand ça va pas, ben oui, de m'impliquer, puis d'aller à l'école, puis d'aller rencontrer l'enseignant ou l'enseignante, puis avec la présence de mon enfant pour régler le problème rapidement. Je comprends que la vie va vite, mais qu'est-ce qui est important, les amis? C'est-tu d'aller écouter Occupation double à la maison le soir ou d'aller voir le prof de ton enfant parce que lui, il a sa job à cœur puis il veut améliorer les choses avec ton enfant? Sylvain Duclos, t'es un professeur de formation. T'es TikToker, YouTuber, podcasteur, vulgarisateur. T'as tous les talents. Faudra peut-être demander à ta blonde pour te blaster un peu. Mais pour l'instant, pour nous autres, t'as tous les talents. Comment t'es... ton degré de... Comment je dirais? Ton degré d'approbation pour le retrait des cellulaires à l'école, ça ressemblait à quoi?
En deux temps. Les cellulaires, je m'étais positionné contre le retrait pur et simple. Parce que je trouvais que c'était important qu'on fasse de l'éducation numérique dans les écoles. Puis si ça ne se fait pas dans les écoles, malheureusement, j'ai bien peur que ça ne se fera pas à la maison. Parce qu'on se l'est dit, les parents courent à gauche, à droite, puis ils n'ont pas nécessairement le temps de faire cette job-là. Maintenant, c'est d'en mettre beaucoup sur les épaules de l'école, d'essayer de faire l'éducation numérique, de gérer cette patente-là qui attire notre attention, qui l'aspire. Hein? On est tous un petit peu dépendants, puis on se rend compte qu'on veut passer 10 minutes sur TikTok, puis on a passé une heure et demie. On est comme ça comme adulte, mais je considère que c'est important de faire de l'éducation numérique avec les jeunes. Puis le fait que les jeunes aient l'appareil sur eux, ça disait, bien écoute, là c'est le temps, là c'est pas le temps. Fait que toi, on avait ce bout-là. Ça, c'était ma ligne de pensée avant. Bien entendu, cette recommandation-là a été faite par un comité transpartisan, des recommandations d'experts. Puis au final, ils ont décidé de les enlever au complet. Puis je trouve que ça se passe plutôt bien. Moi, après une semaine et demie d'école, deux semaines quasiment, j'ai l'impression que les jeunes, ça va plutôt bien. Ils ne sont pas en manque, mais il a fait beau à date. On ne se bat pas avec les jeunes pour leur enlever des mains. On ne les voit pas, en fait, les cellulaires. C'est sûr que l'hiver, il va falloir les occuper, c'est avoir plus de sport, avoir plus d'activités, avoir des jeux de société. Mais en même temps, je pense que globalement, ça demeurait une bonne décision à court terme. Il va falloir faire cette éducation-là numérique parce qu'au final, ça va nous rattraper. La technologie va nous rattraper. Ça va être une autre bébelle qui va sortir puis qui va nous rentrer dans les dents. Si on n'a pas fait cette éducation-là avant, on va se faire ramasser.
Ils sont tellement brillants, les petits maudits. Là. T'sais, moi, je leur ai retiré leur cellulaire quand on était au chalet cet été. Puis, ils se sont rendus compte très rapidement que la vie est bien différente quand il n'y a pas de cellulaire. Puis, ils ont pas mal plus tendance à aller jouer avec les amis, aller à la rencontre des autres, s'amuser puis se divertir. Puis, à la fin de la journée, ils m'ont dit « Papa, ça faisait du bien une journée pas de cellulaire ». Ça vient d'eux autres. Là. Fait que je suis pas mal persuadé qu'il y a une couple de jeunes à l'école, au secondaire, qui vont comparer ça avec les dernières années où ils avaient accès constamment à leur cellulaire, qui vont se dire ah, « OK, finalement, c'est pour ça ». Fait que cette décision-là, moi, je la trouvais drastique. Puis je suis entièrement d'accord avec toi. D'ailleurs, j'avais écouté tes capsules sur ce sujet-là. On a à vivre avec nos cellulaires. En tant que parent, il faut que je me parle une fois de temps en temps. « Hey, mes enfants sont là. Qu'est-ce que je fais sur TikTok? Qu'est-ce que je fais sur Instagram? À regarder les filles en bikini? Qu'est-ce que je fais sur Facebook? Lâche ton cellulaire, Marceau, puis va directement avec tes enfants t'amuser. » Faut que je me parle, moi aussi. Mais ça fait partie de la vie. Mais de mettre ça sur la tâche des professeurs, je trouvais ça assez particulier aussi, parce que concrètement, si les enfants dans ta classe ne veulent rien savoir, il ne doit pas en avoir tant, là, mais c'est difficile de faire respecter ta classe. Moi, j'avais des professeurs à l'école, quand ça n'allait pas, quand on placotait, ils se faisaient tellement respecter dans la classe où ils donnaient tellement des punitions sévères, des copies à n'en plus finir. Je ne sais plus si ça existe encore aujourd'hui, les copies, mais tu en mangeais une copie, là, puis tu passais quasiment 2-3 heures à faire ça, puis tu avais mal aux mains. Le lendemain, tu ne parlais pas dans la classe, là.
Mais c'est certain qu'il faut se parler par rapport à cela. Les copies, je te dirais que c'est plus vraiment à mort, on est plus ces réflexions, là. Mais une copie, des fois, moi, je trouve que ça fait encore la job. Là. J'ai souvent, ce que je faisais, c'est que je me faisais dire « Hey, Sylvain, les copies, c'est pas pédagogique. » Mais je dis à l'élève « Il n'y a pas de problème, tu peux me copier 30 fois cette phrase-là ou faire une réflexion de longueur équivalente. » Le jeune choisissait de copier. C'était mieux que de faire une réflexion.
Puis pour ce qui est du vouvoiement?
Écoute, le vouvoiement, je suis pas encore embarqué. Bien, la première des choses qui était ridicule, c'est de se dire « Hey, on va commencer ça en janvier. » Écoute, en janvier, écoute, gang, début 2026, maintenant, c'est Monsieur Duclos. Ça ne marchera pas. Ça, c'est sûr qu'on oublie ça. On oublie le projet. Le problème, je trouve, c'est qu'on essaie de mettre tout dans la même catégorie. Puis souvent, les gens disent « Hey, mais dans mon temps. Hein? » C'est sûr que les choses ont bien changé. Puis je le disais tantôt, enseigner, c'est devenu une partie de notre job en tant qu'enseignant. On est beaucoup en soutien à l'élève. Il faut bâtir la relation de confiance parce que l'élève a des grandes difficultés. On vient soutenir. Des fois, il y a des difficultés au niveau familial, etc. Fait que cette relation-là qu'on bâtit avec certains élèves amène une proximité. Puis des fois, le vouvoiement, je veux dire, il va prendre le bord. Pour tout le personnel scolaire, difficile aussi. Je pense aux TES qui font des interventions avec les jeunes. Pas évident. Ce pourquoi je suis d'accord, par exemple, c'est que par défaut, on peut se ramener en tant que société de se dire, quand tu abordes quelqu'un que tu ne connais pas, par défaut, le vouvoyer, là, ça va te servir quand tu vas travailler dans des commerces, etc. Tu vas voir la secrétaire de l'école, tu n'y parles jamais. Ce n'est pas ton ami. Tu peux vouvoyer Mme Mylène. Tu sais, ça, c'est correct. Maintenant, une fois que tu es en relation, je pense que c'est à chaque personne de décider de sa relation avec ses élèves. Cette année, mes secondaires 1, qui sont nouveaux dans l'école, me vouvoient, ils sont arrivés du primaire, ils vouvoyaient par défaut, j'ai laissé ça de même. Mes secondaires 2, j'ai des classes où est-ce que j'ai la moitié d'élèves, j'ai des groupes de soutien, par exemple, où est-ce que j'ai entre le tiers et la moitié d'élèves que je connaissais déjà, qui me tutoyaient l'an dernier. Je ne vais pas changer la méthode cette année, là, je m'excuse, là, mais ils vont me tutoyer jusqu'à la fin de l'année, puis c'est correct, mais ils ne me manquent jamais de respect.
Fait que tu as donné une clause grand-père à tes élèves.
Ben, écoute, je me battrai pas là-dessus.
Ben non.
Maintenant, je dis aux élèves, le vouvoiement, c'est bien. Si vous voulez l'utiliser, moi, J'aime beaucoup ça, mais je ne vais pas me battre, là. Puis on a de la misère à donner des conséquences à des élèves qui manquent de respect. On ne va pas donner des conséquences pour le vouvoiement non plus.
Ah non,
maintenant, socialement, est-ce que c'est bien? Je pense que c'est une particularité du français. Puis ça peut être bien avec du personnel que tu ne connais pas. Puis ça va faire des citoyens qui vont avoir une barrière par rapport aux étrangers qui peut être enlevée.
Comme tu es très exposé sur les réseaux sociaux puis tu parles de divers sujets, il y a certainement des gens qui t'ont demandé, Sylvain, pourquoi tu t'exposes autant? T'sais? Parce que tu fais face à des dangers, des fois, d'en dire peut-être trop, puis là, ben, que ça déplaise aux ministres, que ça déplaise aux gens. Puis tu t'es bien exprimé tantôt, tu dis, garde, je fais attention, je parle pas des problématiques chez nous, dans mon établissement, je parle pas de ma commission scolaire, je parle au sens large. Pourquoi toi, t'as senti le besoin de t'exprimer là-dessus? Tu sentais-tu que les profs n'avaient pas grand voix, puis que tu deviens, en bout de ligne, la voix des profs?
Ben, oui et non. Je te dirais que c'est sûr que pendant la pandémie, il y a eu une partie là, où est-ce que je trouvais que mon syndicat ne représentait pas ce que je pensais, mais mon syndicat s'exprimait au nom des enseignants. Fait que, tu sais, des fois, je me disais, donc, pourquoi est-ce que dans les médias, on entend juste les syndicats, puis Gide Royer. J'ai rien contre M. Royer, là, mais quand on parle d'enseignement, on parle des syndicats puis des Gide Royer. Ça, c'était en 2020, quand la pandémie est arrivée. Puis depuis ce temps-là, je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ont fait un step-up, qui ont dit, ben moi, je vais prendre le micro, je vais aller prendre les réseaux sociaux, puis je vais m'exprimer. Fait que cette volonté-là d'être une voix qui porte en éducation pour amener un autre son de cloche, était important pour moi. Puis là, c'est sûr que je me fais alimenter là-dedans. Des gens m'écrivent, des gens me partagent des articles, puis ils me disent, hey, Sylvain, peux-tu en parler? Toi, les gens t'écoutent, etc. Fait que c'est sûr que je me fais alimenter là-dedans. Puis je pense qu'avec tous les commentaires positifs que je reçois, ben c'est le bienvenu d'avoir un enseignant sur le terrain qui parle de ce qui se passe dans les classes, même si parfois ça dérange.
Puis c'est quoi les commentaires que tu reçois sur les réseaux sociaux? Parce que, je veux dire, tu fais pas, c'était pas un shock jock sur les réseaux sociaux. Tu parles de plein de trucs qui sont hyper intéressants. La preuve, mes enfants m'ont parlé de toi. Quand je leur ai dit que j'allais te recevoir, ils m'ont dit « On te croit pas, papa, fait que ça va nous prendre une photo. » Ce que je vais essayer de faire avec le Zoom de ce soir. Est-ce des commentaires négatifs de la part de collègues qui proviennent de l'extérieur, des gens qui sont à Drummond, des gens de Trois-Rivières, des gens de Québec, des gens de Montréal?
De collègues, des fois, j'ai des gens qui me disent « tu parles de ta réalité », mais je dis toujours « je parle de ma réalité ». Puis c'est vrai que c'est pas pareil à Québec, comme en Gaspésie, comme à Montréal. C'est-à-dire qu'une classe multiculturelle à Montréal, c'est pas la même réalité que moi en région. Fait que, c'est sûr que des fois, je me le fais reprocher. Je me fais parfois reprocher de pas parler assez du personnel de soutien, du personnel professionnel des écoles. Alors que moi, je suis enseignant, puis je parle de ma réalité, puis je leur dis, écoute, s'il y a bien quelqu'un qui parle de vous autres, c'est pas mal moi, là, mais c'est jamais assez. Mais à part de ça, souvent, c'est des parents puis des citoyens en général qui ont leur vision du système d'éducation. Parce que tout le monde est allé à l'école. Fait que tout le monde sait comment ça se passe dans une classe, même si parfois, ça fait 25 ans qu'ils n'ont pas mis les pieds dans une école. Fait que oui, mais ça se passe de même. Oui, mais évaluer, ça devrait se faire de même. Oui, mais... Fait que souvent, les commentaires les plus négatifs que j'ai, c'est par rapport à ça.
OK. Les écoles, est-ce qu'elles sont adaptées aux besoins d'aujourd'hui? Je regardais ce matin dans l'actualité, on parlait de dépassement de coûts, on n'en peut finir. C'est rendu que les écoles, puis je pense que Pascal Bérubé du Parti québécois a tweeté à ce sujet-là en disant on n'a plus le contrôle des finances là, pour ce qui est de bâtir nos écoles. Un demi-milliard de dollars pour bâtir une école et c'est toujours pas fini. Est-ce que les infrastructures sont correctes aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des efforts à faire dans les écoles de ta région? C'est-tu correct ou tout est désuet?
Ça change beaucoup d'une école à l'autre, d'une région à l'autre. C'est vraiment disparate. Il y a des écoles qui sont à la fine pointe de la technologie. Les nouvelles écoles sont superbes. Ça coûte excessivement cher parce que ça coûte tellement cher et le processus d'appel d'offres est tellement complexe. Moi, j'ai des gens dans les CSS qui m'ont écrit là, sous le couvert de l'anonymat pour me dire « Écoute, là, ils se dépensent de l'argent, puis il y a juste trois compagnies qui peuvent soumissionner. » Fait qu'au final, les coûts explosent. Mais il y a aussi beaucoup d'écoles qui sont désuètes. Tout a été construit en même temps dans les années 60-70. Fait que tout arrive à désuétude en même temps. Ça manque de fenêtres. des blocs de béton, les réseaux électriques, ça c'est l'enfer. Attends, on nous dit qu'on n'a pas d'air climatisé dans les écoles, mais on n'a pas les moyens d'avoir de l'air climatisé. Les réseaux électriques ne survivraient pas à mettre de l'air climatisé. On fait péter les micro-ondes en branchant un ordinateur.
Ouais, ça, c'en était une belle de M. Drainville. Je ne veux pas faire de la politique avec toi, mais M. Drainville avait dit, ben si les professeurs ont chaud, il y a juste à installer de l'air climatisé. Là. Ils ont des budgets pour ça. J'ai aucun problème. Je peux te dire que les concierges et les électriciens des écoles ont dit, t'as peur, là, ça marche pas de même chez nous. Là. Si on branche quelque chose, on fait péter d'autres choses.
Si tu branches quelque chose, il faut que tu débranches d'autres choses. Dans les écoles, les systèmes ne fournissent pas aux demandes actuelles.
OK. Mais la chaleur, il va falloir qu'ils fassent de quoi aussi? Peut-être devancer la rentrée scolaire, puis la rendre peut-être un peu moins longue là, au mois de juin, là, mais quitte à ce qu'on finisse tout en mai. Là.
Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça éventuellement, parce que c'est sûr qu'on a encore des grosses chaleurs aussi au mois de septembre, fin août, des fois, il fait encore super beau. Fait qu'au final, on déplacerait peut-être le problème. Mais c'est sûr que les sessions d'examen de juin ne sont jamais top-notch. Là. Nos élèves ne sont pas à leur maximum.
Ben, c'est parce que tu essaies de faire un examen, d'être concentré, puis tu sues de la face, puis tu ne bouges pas. C'est peut-être pas l'idéal.
Ça n'a aucun sens.
OK. Hey, j'ai des questions à te poser. Là, il y a des gens qui nous écoutent là, qui n'ont jamais eu cette réponse-là. Puis je pense que là, c'est le moment de le faire. Là. Les professeurs, quand ils sont en journée pédagogique, là, êtes-vous sur le café Baileys puis les deux pieds sur le bureau en attendant que le temps passe? Êtes-vous en réflexion pour ce qui est des prochaines semaines? Je ne sais pas, corrigez-vous des devoirs? Améliorez-vous le programme d'éducation? Qu'est-ce que vous faites en journée pédagogique? Parce que je ne sais pas toi dans ton temps, mais moi dans mon temps, bon, il faut dire qu'on marchait quoi, 10, 15, 20 kilomètres d'intempête de neige pour aller à l'école, mais dans mon temps...
Pas de souliers, pas de souliers.
Pas de souliers. Mais dans mon temps, il me semble qu'il n'y avait pas autant de journées pédagogiques. Là, il ne se passe pas une semaine sans qu'il y en ait une. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites?
Les journées pédagogiques, ça fait un méchant bout qu'il y en a 20. Vraiment longtemps, d'ailleurs. Je pense que dans mon temps, il y en avait quand même 20. Je n'ai pas revérifié les dates. Mais c'est sûr qu'en tant que parent, les journées pédagogiques nous dérangent plus que quand on était des enfants. Parce qu'il faut s'organiser avec les enfants. Qu'est-ce qu'on fait avec? Ça dérange notre routine. Sincèrement, là, on vient de faire la rentrée scolaire. Moi, dans mon école, on a eu 3 journées pédagogiques pour se préparer. Et au bout de ces 3 journées pédagogiques-là, j'étais littéralement brûlé. C'est pire une journée pédagogique qu'une journée avec les élèves parce qu'on est en réunion bien souvent la moitié du temps. Ensuite, on essaie d'avoir un moment pour planifier avec nos collègues. On a des formations qui arrivent pendant ces temps-là aussi. Puis, on a plein de redditions de comptes à faire. Fait que souvent, c'est des moments où est-ce qu'on essaye de se poser, puis on se dit « Ah, je vais faire ça pendant la journée pédagogique, je vais faire ça pendant la journée pédagogique », puis on ne réussit jamais à tout faire pendant ces journées pédagogiques-là. Ça, c'est des journées de début d'année. Puis pendant l'année, bien souvent, bien, on en a une fois de temps en temps. Considère qu'il y a la moitié de la journée qui est occupée par des rencontres, des réunions qui nous sont demandées par la direction, puis le reste, où est-ce qu'on essaye de reprendre le retard qu'on a sur notre correction, puis de prendre un petit moment pour parler à nos collègues qui ne sont jamais disponibles en même temps que nous dans l'école. Fait qu'elles sont réellement très utiles, ces journées-là. C'est pas juste pour déranger les parents qu'on les prend.
Bon, ben on vient de défaire un mythe. On aura fait ça à soir, défaire le mythe des journées pédagogiques où les professeurs font dodo à l'école. On a le plaisir de passer la soirée en compagnie d'un enseignant. Il est enseignant depuis plusieurs années. Vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux. Son nom, c'est Sylvain Duclos. Il est sur TikTok, sur YouTube. C'est un vulgarisateur. C'est aussi un podcasteur. Donc, je vous invite à aller sur les réseaux sociaux et l'ajouter. On va faire une très courte pause et on revient.
Marceau le soir. Marceau le matin. Marceau le matin. Le matin.
Soleil qui se lève avec nous autres. Salut Soleil, salut les auditeurs, salut à tous ceux qui nous ont écrit entre 5h et 6h. Vous êtes de bonne heure à Québec?
Oh que oui.
C'est qui se passe?
Toi aussi, t'es de bonne heure.
Pensez pas qu'il y avait de la vie avant 10h le matin. J'étais Marceau le soir. Après ça, j'ai fait Marceau le soir à 18h. Après ça, j'ai fait Marceau le midi. Après ça, j'ai fait Marceau le midi à 10h. Puis là, je fais Marceau le matin de 6h à 10h.
Ouais, fait que là, si on veut descendre encore, va vraiment falloir que tu fasses un show de nuit. Puis là, on va faire le tour.
Exactement. Je sais qu'il y a énormément de gens qui sont à l'écoute, des amis, des auditeurs, des collègues de travail. On n'aura pas le temps de vous répondre aujourd'hui, j'en suis pas mal persuadé. Mais sachez que je lis absolument tout ce qui va passer. Puis je vous remercie d'être là. C'est une belle aventure qui débute.
Marceau le matin, tous les jours en semaine, 6 heures. Puis en rattrapage où, Marceau?
Ben, sur le blvd.fm.
Bravo!
Y a rien là! C'était écrit sur la feuille!
102.1.
Il faut tout un village pour aider un enfant à faire face au cancer. Boulevard 102.1 vous invite à en faire partie lors d'un grand rendez-vous de solidarité. Le dimanche 14 septembre, dès 11h, vivez le défi au cœur du village Leucan, au Grand Marché de Québec. Rasage en direct, animation pour toute la famille, invités spéciaux et une grande dose d'espoir. Venez encourager les participants lors de cette version unique et festive ou encore relevez le défi vous-même. Inscription gratuite sur têterasée-au-pluriel.com.
La rentrée peut coûter cher. E-box t'offre, pour un temps limité, un mois gratuit quand tu t'abonnes au forfait Internet fibre 500 Mbps ou 1 Gbps par seconde. Abonne-toi au e-box.ca.
Découvrez le Volkswagen Taos 2025. Ce mois-ci, le VogueFest rend le Taos encore plus irrésistible. Avec 0 % de financement jusqu'à 24 mois, 1 000 en boni VogueFest et 2 ans d'entretien prépayé. Le Taos 2025 vous attend dès aujourd'hui chez Volkswagen Saint-Nicolas. Kinatex, c'est une équipe de thérapeutes passionnés qui sont là pour vous offrir des soins personnalisés et des résultats durables. Physiothérapie, ostéopathie, rééducation périnéale et plus encore. Kinatex vous accompagne à chaque étape de la vie avec écoute et expertise. Kinatex Sport Physio, votre référence en physiothérapie et en réadaptation.
On atteint la limite de ce qu'on est capable de produire en puissance.
Est-ce que c'est rentable d'investir dans la transition énergétique?
Mais c'est sûr que plus qu'avant, il faut faire des choix.
C'est un défi majeur, produire plus avec ce qui existe déjà.
La nature nous les fournit en abondance.
On fait du cœur de coup.
La grande question qu'on se pose, c'est vers quoi on devenait se tourner.
Explorez les avenues énergétiques grâce au balado « Vers quoi se tourner » sur vos plateformes préférées.
Besoin d'un coup de main avec votre santé? Votre pharmacien propriétaire affilié à Proxim n'est jamais loin. Que ce soit en ajustant un traitement, en prescrivant certains médicaments ou en gérant des problèmes chroniques comme le diabète ou les maladies cardiovasculaires, nos pharmaciens vous accompagnent dans votre parcours santé avec des soins personnalisés. Consultez votre pharmacien propriétaire affilié à Proxim dès aujourd'hui. Les pharmaciens sont les seuls responsables de l'exercice de la pharmacie. Certaines conditions s'appliquent.
Transat présente, des amis déçus que l'été tire déjà sa fin.
Ah, oh, ça a passé tellement vite. On aurait dû aller à la piscine plus souvent.
Tellement.
On aurait dû aller à la plage.
C'est clair.
On aurait même pu essayer quelque chose de nouveau.
C'est sûr.
Oh, si on réservait un tout inclus.
Oh, toi, t'es officiellement ma géo du bonheur.
Vous aussi. Étirez votre été en profitant de rabais allant jusqu'à 40 % sur nos forfaits sud. Rendez-vous sur transat.com ou contactez votre conseiller voyage pour tous les détails. Des conditions s'appliquent. Air Transat, le voyage nous transporte.
Fou de la bouffe, c'est le choix idéal pour des repas copieux, frais et savoureux, prêts en 3 minutes. Un nouveau menu succulent et personnalisable chaque semaine, préparé et livré dans des boîtes isothermiques.
Livraison partout au Québec, essayez-le. Foubouffe.com.
À Québec, un Ford, ça se branchait déjà d'un Ford.
Les prix employés Ford continuent chez Desjardins Auto Collection. En ce moment, offrez-vous le Ford F-150 2025 avec jusqu'à 12 975 $ en ajustement de prix et l'Escape PHEV 2025 jusqu'à 5 968 $ en ajustement de prix, incluant l'incitatif provincial de 1 000
$. CRCD, ça signifie Capital Régional et Coopératif Desjardins. C'est un fonds qui enrichit nos régions. Donc, vous aidez des PME près de chez vous, comme une manufacture au Saguenay, une épicerie en Montérégie ou même une résidence pour aînés en Estrie. Votre argent fait grandir votre coin de pays. Investissez jusqu'à 5 000 et profitez d'un crédit d'impôt provincial de 25 %. Rendez-vous à desjardins.com/CRCD. Consultez le prospectus avant d'investir.
Dévis, le plus grand chantier naval du Canada, recrute activement pour plus de 1000 postes. Peintre, assembleur mécanique, électricien, contremaître et bien plus. Avec un carnet de commandes rempli jusqu'en 2040 et des conditions de travail solides, ose le grandiose pour ta carrière. Postule à dévirecrute.ca.
Les entreprises Paradis Leclerc sont à la recherche de charpentiers-menuisiers pour combler un poste permanent au sein de leur équipe.
Nous offrons un environnement structuré, des conditions de travail avantageuses et la possibilité de faire carrière dans une entreprise bien établie.
Vous êtes rigoureux, autonome et avez le sens des responsabilités? Déposez votre candidature dès maintenant sur paradisleclerc.com.
Entreprise Paradis Leclerc, une carrière à la hauteur de vos compétences.
Hola! Qu'est-ce que je peux vous servir?
Je pense que j'essaierai votre spécial Mercado.fm.
Oh, c'est un excellent choix!
Hé, hey, je suis curieuse, vous mettez quoi là-dedans?
Je laisse mon mixologue vous l'expliquer.
Ce mois-ci, les ingrédients vedettes sont un massage de 30 minutes d'une valeur de 95 à 47 chez Infinima Spa et un excès pour une personne d'une valeur de 79 à 39 chez Énergie Spa. Il ne vous reste qu'à savourer votre été sans vous ruiner. Est-ce que c'est dans vos goûts?
Mais hein, je te prends ça!
Mercado.fm, un cocktail de rabais parfait pour votre été.
Le 10 septembre approche. Avez-vous choisi votre bijou pour la cause? Pour une dixième année, Millie Bijoux contribue à la mission de l'Association québécoise de prévention du suicide grâce à une vente 24 heures. 10 $ par bijou exclusif vendu seront remis à l'organisme. MillieBijoux.com.
Vous avez des varices qui vous gênent? Des symptômes de fatigue dans les jambes, d'enflure ou la sensation des jambes lourdes? À la Clinique de phlébologie de Québec, notre équipe de 5 médecins phlébologues peut vous aider. Pour plus d'informations, visitez ven.ca.
En Suède, le minimalisme n'est pas synonyme d'ennui. Il s'agit d'éliminer le superflu et de perfectionner le reste. Polestar 3, le VUS électrique qui se conduit comme une voiture de sport. Pas de parure, pas de fioritures, simplement le design et la performance perfectionnés. Louez votre Polestar 3 pour seulement 899 $ par mois sur 12 mois avec 0 $ d'acompte. Oui, 899 $ par mois, mais uniquement jusqu'au 30 septembre. Visitez Polestar Ville de Québec ou Polestar.com. Les conditions s'appliquent.
102, la radio rock de la vieille capitale. Ça, c'est BLVD. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée.
Sylvain Duclos, professeur, TikToker, YouTuber, podcasteur, vulgarisateur. Je sais pas si ça rentre tout sur une carte d'affaires, mais du moins, il passe sa soirée avec nous autres. On est content. J'ai hâte de montrer ça à mes enfants. Ils vont être contents que je te côtoie. T'es comme une forme d'idole qui n'existe pas vraiment dans la réalité pour eux autres. C'est assez drôle. Si on avait quelque chose à souhaiter pour le système d'éducation, pour 5, 10, 15, 20 prochaines années, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Puis ça va ressembler à quoi, l'éducation dans le futur? Est-ce que ça va tout être en présentiel pour nos enfants? J'aimerais que ça reste en présentiel pour nos enfants, mais toi, tu as l'impression qu'on va peut-être faire de plus en plus de virtuel?
Mais en fait, j'aurai une question par rapport à tes enfants tantôt, Yannick. Moi, ce que je souhaite à court terme, c'est qu'on se pose, qu'on arrête d'essayer de réparer un système qui a des trop grosses lacunes. T'sais, c'est plus le temps d'essayer de mettre du duct tape sur le système puis de régler ça à coup de vouvoiement puis d'une petite réforme puis de ci puis de ça. Ça nous prend quelque chose de plus cohérent. La dernière réforme, puis je sais que réforme, ça fait peur à du monde, hein, le dernier changement majeur, il date de 25 ans. On est dû pour réactualiser notre école. Fait que je pense qu'il faut s'arrêter, se poser, avoir une discussion qui va être transpartisane. Où est-ce qu'on va sortir de la politique? Qu'on va poser les bases d'un plan de match qui va aller au-delà du prochain mandat, du prochain gouvernement. Ça ne peut pas se régler en dedans de 4 ans, le système d'éducation. Il faut avoir une vision à long terme. Il faut se demander qu'est-ce qu'on va faire avec l'intelligence artificielle, comment qu'on va préparer nos jeunes aux technologies. Comment est-ce qu'on veut voir tout ce qui est, on a parlé tantôt, des adaptations puis des jeunes en difficulté. Est-ce que ce qu'on fait actuellement, c'est bon? Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose de mieux? Est-ce qu'on est allé trop loin? Est-ce qu'il faut reculer un petit peu? Est-ce qu'on en demande suffisamment aux enseignants? Est-ce que les enseignants puis le personnel, ils devraient faire tout ça ou devraient se concentrer sur une partie de leur rôle? Fait qu'il y a des questions à se poser. Actuellement, on y va de petites réformes gouvernementales en convention collective, puis on manque d'une vision globale. Fait que la personne qui va me dire « je m'en vais là, puis on va l'avoir cette réflexion-là, puis on va prendre 2 ans pour y penser comme il faut, puis arriver avec un plan de match pour l'école, mais aussi pour la société, pour dire c'est quoi le rôle du parent, c'est quoi le rôle des enseignants, c'est quoi le rôle de la direction, pour que tout le monde s'entende sur ce qu'il y a à faire, puis après ça, on va aller de l'avant. Moi, ça, cette personne-là, je vais voter pour elle. Ça, c'est ce que je souhaite à court-moyen terme. Maintenant, tu me demandais, Yannick, est-ce que tu penses que ça va être en présentiel, en virtuel? Moi, je pense qu'il n'y a rien qui bat le présentiel pour nos jeunes, parce qu'ils ont besoin de socialiser, ils ont besoin d'être ensemble. Ce que j'espère, c'est qu'éventuellement, on va être capable de décloisonner les écoles qui sont un petit peu bâties comme des usines, hein, sur des horaires très, très fermés, alors qu'on a des jeunes qui ont différents rythmes d'apprentissage. Moi, j'aimerais ça dans mon monde de licorne, j'aime ça dire ça de même. J'aimerais ça qu'on puisse avoir des jeunes qui viennent en cours de maths, mais qu'ils sont super autonomes dans leurs choses. Ils viennent me voir 15 minutes en début de période, puis ils vont travailler à l'Agora dans leurs affaires, parce qu'eux autres sont capables de travailler de façon autonome en écoutant des vidéos YouTube, par exemple, mais que j'ai du temps pour garder une dizaine d'élèves puis travailler avec eux autres de façon plus assidue. Mais que j'aimerais ça qu'on soit capable de décloisonner les barrières puis d'offrir à nos jeunes qui sont plus autonomes l'occasion de développer cette autonomie-là puis de donner plus de temps et de chance à nos jeunes qui sont plus en difficulté.
L'intelligence artificielle en éducation, est-ce que ça te fait peur?
Ça me fait pas peur. J'y vois beaucoup... d'opportunités. Cependant, de la façon que c'est abordé actuellement, ça me fait peur qu'on manque le bateau. J'ai l'impression qu'actuellement, on est encore, malheureusement, 2 ans et demi plus tard, en train de faire une chasse aux sorcières à savoir comment est-ce qu'on va détecter que c'est ChatGPT qui a fait le texte, au lieu de se questionner à savoir si ce qu'on demande aux jeunes, c'est pertinent aujourd'hui. Comment est-ce qu'ils pourraient utiliser l'intelligence artificielle? Comment est-ce qu'ils pourraient développer des nouvelles compétences? Puis aussi s'en servir, à savoir, dire, moi, j'ai des collègues, par exemple, qui ont commencé des expérimentations où est-ce qu'ils déposent leur documentation, leurs notes de cours, leur contenu dans des robots conversationnels qui deviennent des mini-tuteurs qui répondent à des questions d'élèves à partir de leur contenu. Je trouve que c'est des utilisations qui sont intelligentes. Fait que j'ai peur qu'on soit en train de manquer le bateau en essayant de tout contrôler puis de pousser ça sous le tapis.
La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'il va toujours rester des personnes comme toi, des personnes bienveillantes pour veiller à l'éducation de nos enfants puis tenter d'améliorer le système, puis en jaser sur les réseaux sociaux. Puis c'est grâce à vous autres si je suis capable des fois de retourner sur le fameux théorème de Pythagore pour expliquer ça à mes enfants qui n'ont pas compris à l'école. Mes enfants qui me parlent du théorème de Pythagore, Sylvain. Et tabarouette, je pensais que j'allais avoir encore une autre journée dans ma quarantaine où je ne parlerai pas du théorème de Pythagore. Finalement, c'est mes enfants qui m'ont ramené ça. Puis là, j'ai voulu avoir de l'air intelligent. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé le théorème de Pythagore expliqué au nul. Et après ça, j'ai été obligé... je l'ai expliqué à mes enfants. C'était formidable. Merci.
Ça prend ça. C'est tellement important, Pythagore.
Oui. Sylvain Duclos, ça a été un plaisir de passer la soirée en ta compagnie. J'espère que ce n'est pas la dernière fois qu'on te parle. Tu es vraiment sympathique. Les gens t'apprécient beaucoup. J'invite les auditeurs qui te connaissent en tant que professeur, mais ceux qui veulent te suivre, allez te voir sur TikTok, YouTube et ainsi de suite. Donc, Sylvain Duclos, vous allez le trouver assez rapidement. Je te souhaite de passer une belle soirée. De même qu'aux auditeurs.
Bien, toi aussi.
Puis on se reparle demain, tout le monde. Salut, bye-bye.
Marceau, le soir. Le soir.
Du 11 au 13 septembre, profite des derniers rayons de l'été au Festival Phono. Musique, jeux, food truck, zone détente, tout pour passer du bon temps.
Cette année, t'en as plus pour ton argent.
Une journée supplémentaire, plus de spectacles et une nouvelle scène. Galantis,
Charlotte Cardin,
Les Trois Accords,
Alex Warren
et une cinquantaine d'autres artistes seront là pour faire lever le party. Achète ta passe maintenant. Festival Phono, présenté par Beneva en collaboration avec RBC.
Cet automne, dites enfin bye-bye tattoo à 25% de rabais avec les Cliniques Viva. Ultra efficace, fonctionne sur toutes les couleurs d'encre et de peau. Cliniqueviva.com.
Oui, allô?
Pierre-Luc, mon cousin préféré, j'ai reçu ton courriel.
Quel courriel?
Ben, les offres que tu me fais, parce qu'on est dans la même famille, là, sur le Taos, l'idée 4, la Jetta, l'idée Buzz.
Ah, oh, le Volksfest. Ouais, mais ça, c'est pour tout le monde.
Hey, des offres à 0% sur les modèles sélectionnés, le Bonnie Volksfest, t'es fou!
Oui, mais t'as compris que c'était pas juste pour toi, là, c'est vraiment...
OK, Pierre-Luc, si tu le dis.
Oui, ben, je te le dis, là.
Volksfest, c'est pour tout le monde. Profitez d'offres à partir de 0% et obtenez jusqu'à 1 000 $ en Bonnie Volksfest sur certains modèles. Faites vite, les offres se terminent le 30 septembre. Sur approbation du crédit, des conditions s'appliquent. Détails chez votre concessionnaire Volkswagen.
La route, la route, la route, l'écran, la route, l'écran, la route, la route, la route, la route, l'écran, le piéton qui traverse, le pare-brise qui craque, le piéton à terre. Le piéton à terre. Le piéton à terre. Vos yeux ne voient qu'une chose à la fois. Si c'est l'écran, ce n'est pas la route. Garder son attention sur la route, c'est juste la base. Un message du gouvernement du Québec.
On jette pas de l'huile sur le feu. On jette pas le bébé avec l'eau du bain. Surtout, on jette pas son vieux frigo. On le recycle. Jette un coup d'œil sur gorecycle.com pour découvrir toutes nos solutions. À Go, recycle ton frigo.
Économisez 150$ sur les lunettes chez Gretsch et Scaff. Jusqu'au 22 décembre, économisez 150$ à l'achat d'une paire de lunettes complètes avec verre et monture de grande marque. Chantal Gravel, opticienne, apportez votre prescription ou réservez votre examen de la vue sur gretsch-scaff.com.
Besoin d'un coup de main avec votre santé? Votre pharmacien propriétaire affilié à Proxim n'est jamais loin. Que ce soit en ajustant un traitement, en prescrivant certains médicaments ou en gérant des problèmes chroniques comme le diabète ou les maladies cardiovasculaires, nos pharmaciens vous accompagnent dans votre parcours santé avec des soins personnalisés. Consultez votre pharmacien propriétaire affilié à Proxim dès aujourd'hui. Les pharmaciens sont les seuls responsables de l'exercice de la pharmacie. Certaines conditions s'appliquent.
Fou de la bouffe, c'est le choix idéal pour des repas prêts à manger.